Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Aloe or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.
30e section des scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1. Une double famille, par Honoré de Balzac. 30e section. À Madame la Comtesse Louise de Thureim. Comme une marque du souvenir et de l'affectueux respect de son humble serviteur. De Balzac. La rue du Tourniquet-Saint-Jean, naguère une des rues les plus tortueuses et les plus obscures du vieux quartier qui entoure l'hôtel de ville, serpentait le long des petits jardins de la préfecture de Paris et venait aboutir dans la rue du Martroi, précisément à l'angle d'un vieux mur maintenant abattu. En cet endroit se voyait le Tourniquet, auquel cette rue a dû son nom, et qui ne fut détruit qu'en 1823, lorsque la ville de Paris fit construire, sur l'emplacement d'un jardinet dépendant de l'hôtel de ville, une salle de bal pour la fête donnée au duc d'Angoulême à son retour d'Espagne. La partie la plus large de la rue du Tourniquet était à son débouché dans la rue de la Tixeranderie, où elle n'avait que 5 pieds de largeur. Aussi, par les temps pluvieux, des eaux noirâtres baignaient-elles promptement le pied des vieilles maisons qui bordaient cette rue, en entraînant les ordures déposées par chaque ménage au coin des bornes. Les tombereaux ne pouvant point passer par là, les habitants comptaient sur les orages pour nettoyer leurs rues toujours boueuses. Et comment aurait-elle été propre? Lorsqu'en été le soleil dardait en aplomb ses rayons sur Paris, une nappe d'or, aussi tranchante que la lame d'un sabre, illuminait momentanément les ténèbres de cette rue sans pouvoir sécher l'humidité permanente qui régnait depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier étage de ces maisons noires et silencieuses. Les habitants, qui au mois de juin allumaient leurs lampes à 5 heures du soir, ne les éteignaient jamais en hiver. Encore aujourd'hui, si quelque courageux piéton veut aller du marais sur les quais, en prenant au bout de la rue du Chaume les rues de l'Homme armé, des Billettes et des deux portes qui mènent à celle du Tourniquet Saint-Jean, il croira n'avoir marché que sous des caves. Presque toutes les rues de l'ancien Paris, dont les chroniques ont tant vanté la splendeur, ressemblaient à ce dédale humide et sombre où les antiquaires peuvent encore admirer quelques singularités historiques. Ainsi, quand la maison qui occupait le coin formé par les rues du Tourniquet et de la Tixeranderie subsistait, les observateurs y remarquaient les vestiges de 2 gros anneaux de fer scellés dans le mur, un reste de ces chaînes que le quartenier faisait jadis tendre tous les soirs pour la sûreté publique. Cette maison, remarquable par son antiquité, avait été bâtie avec des précautions qui attestaient l'insalubrité de ses anciens logis, car pour assainir le rez-de-chaussée, on avait élevé les berceaux de la cave à 2 pieds environ au-dessus du sol, ce qui obligeait à monter 3 marches pour entrer dans la maison. Le chambranle de la porte bâtarde décrivait un cintre plein, dont la clef était ornée d'une tête de femme et d'arabesques rongées par le temps. 3 fenêtres, dont les appuis se trouvaient à hauteur d'homme, appartenaient à un petit appartement situé dans la partie de ce rez-de-chaussée qui donnait sur la rue du Tourniquet, d'où il tirait son jour. Ces croisées dégradées étaient défendues par de gros barreaux en fer très espacés et finissant par une saillie ronde semblable à celle qui termine les grilles des boulangers. Si pendant la journée quelques passants curieux jetaient les yeux sur les 2 chambres dont se composait cet appartement, il lui était impossible d'y rien voir, car pour découvrir dans la 2e chambre 2 lits en serge verte réunis sous la boiserie d'une vieille alcôve, il fallait le soleil du mois de juillet. Mais le soir, vers les 3 heures, une fois la chandelle allumée, on pouvait apercevoir, à travers la fenêtre de la 1ère pièce, une vieille femme assise sur une escabelle au coin d'une cheminée où elle attisait un réchaud sur lequel mijotait un de ces ragoûts semblables à ceux que savent faire les portières. Quelques rares ustensiles de cuisine ou de ménage accrochés au fond de cette salle se dessinaient dans le clair-obscur. À cette heure, une vieille table posée sur une X, mais dénuée de linge, était garnie de quelques couverts d'étain et du plat cuisiné par la vieille. 3 méchantes chaises meublaient cette pièce, qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger. Au-dessus de la cheminée s'élevait un fragment de miroir, un briquet, 3 verres, des allumettes et un grand pot blanc tout ébréché. Le carreau de la chambre, les ustensiles, la cheminée, tout plaisait néanmoins par l'esprit d'ordre et d'économie que respirait cet asile sombre et froid. Le visage pâle et ridé de la vieille femme était en harmonie avec l'obscurité de la rue et la rouille de la maison. À la voir au repos, sur sa chaise, on eût dit qu'elle tenait à cette maison comme un colimaçon tient à sa coquille brune. Sa figure, où je ne sais quelle vague expression de malice perçait à travers une bonhomie affectée, était couronnée par un bonnet de tulle rond et plat, qui cachait assez mal des cheveux blancs. Ses grands yeux gris étaient aussi calmes que la rue, et les rides nombreuses de son visage pouvaient se comparer aux crevasses des murs. Soit qu'elle fût née dans la misère, soit qu'elle fût déchue d'une splendeur passée, elle paraissait résignée depuis longtemps à sa triste existence. Depuis le lever du soleil jusqu'au soir, excepté les moments où elle préparait les repas et ceux où, chargée d'un panier, elle s'absentait pour aller chercher les provisions, cette vieille femme demeurait dans l'autre chambre devant la dernière croisée, en face d'une jeune fille. À toute heure du jour, les passants apercevaient cette jeune ouvrière, assise dans un vieux fauteuil de velours rouge, le cou penché sur un métier à broder, travaillant avec ardeur. Sa mère avait un tambour vert sur les genoux et s'occupait à faire du tulle, mais ses doigts remuaient péniblement les bobines. Sa vue était affaiblie, car son nez sexagénaire portait une paire de ces antiques lunettes qui tiennent sur le bout des narines par la force avec laquelle elle les comprime. Quand venait le soir, ces 2 laborieuses créatures plaçaient entre elles une lampe dont la lumière, passant à travers 2 globes de verre remplis d'eau, jetait sur leur ouvrage une forte lueur qui permettait à l'une de voir les fils les plus déliés fournis par les bobines de son tambour, et à l'autre les dessins les plus délicats tracés sur l'étoffe qu'elle brodait. La courbure des barreaux avait permis à la jeune fille de mettre sur l'appui de la fenêtre une longue caisse en bois pleine de terre où végétaient des pois de senteur, des capucines, un petit chèvrefeuille malingre et des volubilis dont les tiges débiles grimpaient autour des barreaux. Ces plantes presque étiolées produisaient de pâles fleurs, harmonie de plus qui mêlait je ne sais quoi de triste et de doux dans le tableau présenté par cette croisée, dont la baie encadrait bien ces 2 figures. À l'aspect fortuit de cet intérieur, le passant le plus égoïste emportait une image complète de la vie que mène à Paris la classe ouvrière, car la brodeuse ne paraissait vivre que de son aiguille. Bien des gens n'atteignaient pas le tourniquet sans s'être demandé comment une jeune fille pouvait conserver des couleurs en vivant dans cette cave. Un étudiant passait-il par là pour gagner le pays latin? Sa vive imagination lui faisait déplorer cette vie obscure et végétative, semblable à celle du lierre qui tapisse de froides murailles, ou à celle de ces paysans voués au travail, et qui naissent, labourent, meurent, ignorés du monde qu'ils ont nourri. Un rentier se disait, après avoir examiné la maison avec l'œil d'un propriétaire, « Que deviendront ces deux femmes si la broderie vient à n'être plus de mode ?» Parmi les gens qu'une place à l'hôtel de ville ou au palais forçait à passer par cette rue à des heures fixes, soit pour se rendre à leurs affaires, soit pour retourner dans leurs quartiers respectifs, peut-être se trouvait-il quelque cœur charitable. Peut-être un homme veuf ou un Adonis de 40 ans, à force de sonder les replis de cette vie malheureuse, comptait-il sur la détresse de la mère et de la fille pour posséder à bon marché l'innocente ouvrière dont les mains agiles et potelées, le cou frais et la peau blanche, attrait dû sans doute à l'habitation de cette rue sans soleil, excitaient son admiration. Peut-être aussi quelque honnête employé à 1200 francs d'appointement, témoin journalier de l'ardeur que cette jeune fille portait au travail, estimateur de ses mœurs pures, attendait-il de l'avancement pour unir une vie obscure à une vie obscure, un labeur obstiné à un autre, apportant au moins et un bras d'homme pour soutenir cette existence et un paisible amour décoloré comme les fleurs de la croisée. De vagues espérances animaient les yeux ternes et gris de la vieille mère. Le matin, après le plus modeste de tous les déjeuners, elle revenait prendre son tambour, plutôt par maintien que par obligation, car elle posait ses lunettes sur une petite travailleuse de bois rougi, aussi vieille qu'elle, et passait en revue, de 8h30 à 10h environ, les gens habitués à traverser la rue. Elle recueillait leurs regards, faisait des observations sur leur démarche, sur leur toilette, sur leur physionomie, et semblait leur marchander sa fille, tant ses yeux babillards essayaient d'établir entre eux de sympathiques affections par un manège digne des coulisses. On devinait facilement que cette revue était pour elle un spectacle, et peut-être son seul plaisir. La fille levait rarement la tête, la pudeur ou peut-être le sentiment pénible de sa détresse semblait retenir sa figure attachée sur le métier. Aussi, pour qu'elle montrât aux passants sa mine chiffonnée, sa mère devait-elle avoir poussé quelque exclamation de surprise. L'employé vêtu d'une redingote neuve, ou l'habitué qui se produisait avec une femme à son bras, pouvait alors voir le nez légèrement retroussé de l'ouvrière, sa petite bouche rose et ses yeux gris toujours pétillants de vie, malgré ses accablantes fatigues. Ces laborieuses insomnies ne se trahissaient guère que par un cercle plus ou moins blanc dessiné sous chacun de ses yeux, sur la peau fraîche de ses pommettes. La pauvre enfant semblait être née pour l'amour et la gaieté, pour l'amour qui avait peint au-dessus de ses paupières bridées deux arcs parfaits, et qui lui avait donné une si ample forêt de cheveux châtains qu'elle aurait pu se trouver sous sa chevelure comme sous un pavillon impénétrable à l'œil d'un amant, pour la gaieté qui agitait ses deux narines mobiles, qui formaient deux fossettes dans ses joues fraîches et lui faisaient si vite oublier ses peines. Pour la gaieté, cette fleur de l'espérance qui lui prêtait la force d'apercevoir sans frémir l'aride chemin de sa vie. La tête de la jeune fille était toujours soigneusement peignée. Suivant l'habitude des ouvrières de Paris, sa toilette lui semblait finie quand elle avait lissé ses cheveux et retroussé en deux arcs le petit bouquet qui se jouait de chaque côté des tempes et tranché sur la blancheur de sa peau. La naissance de sa chevelure avait tant de grâce. La ligne de bistre nettement dessinée sur son cou donnait une si charmante idée de sa jeunesse et de ses attraits que l'observateur, en la voyant penchée sur son ouvrage, sans que le bruit lui fît relever la tête, devait l'accuser de coquetterie. De si séduisantes promesses excitaient la curiosité de plus d'un jeune homme qui se retournait en vain dans l'espérance de voir ce modeste visage. Caroline, Nous avons un habitué de plus, et aucun de nos anciens ne le vaut. » Ces paroles, prononcées à voix basse par la mère dans une matinée du mois d'août 1815, avaient vaincu l'indifférence de la jeune ouvrière qui regarda vainement dans la rue. L'inconnu était déjà loin. « Par où s'est-il envolé ? » demanda-t-elle. « Il reviendra sans doute à 4 heures. Je le verrai venir et t'avertirai en te poussant le pied. Je suis sûr qu'il repassera. Voici 3 jours qu'il prend par notre rue. Mais il est inexact dans ses heures. Le premier jour, il est arrivé à 6 heures, avant-hier à 4 et hier à 3. Je me souviens de l'avoir vu autrefois de temps à autre. C'est quelque employé de la préfecture qui aura changé d'appartement dans le marais. Tiens, ajouta-t-elle, après avoir jeté un coup d'œil dans la rue, notre monsieur à l'habit marron a pris perruque. Comme cela le change. Le monsieur à l'habit marron devait être celui des habitués qui fermait la procession quotidienne, car la vieille mère remit ses lunettes, reprit son ouvrage en poussant un soupir, et jeta sur sa fille un si singulier regard qu'il eût été difficile à l'avatar lui-même de l'analyser. L'admiration, la reconnaissance, une sorte d'espérance pour un meilleur avenir, se mêlaient à l'orgueil de posséder une fille si jolie. Le soir, sur les 4 heures, la vieille poussa le pied de Caroline, qui leva le nez assez à temps pour voir le nouvel acteur, dont le passage, périodique, allait animer la scène. Grand, mince, pâle et vêtu de noir, cet homme paraissait avoir 40 ans environ, et sa démarche avait quelque chose de solennel. Quand son œil fauve et perçant rencontra le regard terni de la vieille, il la fit trembler. Elle crut s'apercevoir qu'il savait lire au fond des cœurs. L'inconnu se tenait très droit, et son abord devait être aussi glacial que l'était l'air de cette rue. Le teint terreux et verdâtre de son visage était-il le résultat de travaux excessifs ou produit par une santé frêle et maladive? Ce problème fut résolu par la vieille mère de 20 manières différentes, matin et soir. Caroline, seule, devina tout d'abord sur ce visage abattu les traces d'une longue souffrance d'âme. Ce front, facile à se rider, ses joues légèrement creusées, gardaient l'empreinte du sceau avec lequel le malheur marque ses sujets, comme pour leur laisser la consolation de se reconnaître d'un œil fraternel et de s'unir pour lui résister. Si le regard de la jeune fille s'anima d'abord d'une curiosité toute innocente, il prit une douce expression de sympathie à mesure que l'inconnu s'éloignait, semblable aux derniers parents qui ferment un convoi. La chaleur était en ce moment si forte et la distraction du passant si grande qu'il n'avait pas remis son chapeau en traversant cette rue malsaine. Caroline put alors remarquer, pendant le moment où elle l'observa, l'apparence de sévérité que ses cheveux relevés en brosse au-dessus de son front large répandait sur sa figure. L'impression vive, mais sans charme, ressentie par Caroline à l'aspect de cet homme, ne ressemblait à aucune des sensations que les autres habitués lui avaient fait éprouver. Pour la première fois, sa compassion s'exerçait sur un autre que sur elle-même et sur sa mère. Elle ne répondit rien aux conjectures bizarres qui fournirent un aliment à l'agaçante loquacité de sa vieille mère et tira silencieusement sa longue aiguille, dessus et dessous le tulle tendu. Elle regrettait de ne pas avoir assez vu l'étranger et attendit au lendemain pour porter sur lui un jugement définitif. Pour la première fois aussi, l'un des habitués de la rue lui suggérait autant de réflexions. Ordinairement, elle n'opposait qu'un sourire triste aux suppositions de sa mère qui voulait voir dans chaque passant un protecteur pour sa fille. Si de semblables idées, imprudemment présentées par cette mère à sa fille, n'éveillait point de mauvaises pensées, il fallait attribuer l'insouciance de Caroline à ce travail obstiné, malheureusement nécessaire, qui consumait les forces de sa précieuse jeunesse et devait infailliblement altérer un jour la limpidité de ses yeux ou ravir à ses joues blanches les tendres couleurs qui les nuançaient encore. Pendant 2 grands mois environ, la nouvelle connaissance eut une allure très capricieuse. L'inconnu ne passait pas toujours par la rue du Tourniquet, car la vieille le voyait souvent le soir sans l'avoir aperçu le matin. Il ne revenait pas à des heures aussi fixes que les autres employés qui servaient de pendule à Madame Crochard. Enfin, excepté la première rencontre où son regard avait inspiré une sorte de crainte à la vieille mère, jamais ses yeux ne parurent faire attention au tableau pittoresque que présentaient ces deux gnomes femelles. À l'exception de deux grandes portes et de la boutique obscure d'un ferrailleur, il n'existait à cette époque, dans la rue du Tourniquet, que des fenêtres grillées qui éclairaient par des jours de souffrance les escaliers de quelques maisons voisines. Le peu de curiosité du passant ne pouvait donc pas se justifier par de dangereuses rivalités. Aussi, Madame Crochard était-elle piquée de voir son « Monsieur Noir », tel fut le nom qu'elle lui donna, toujours gravement préoccupée, tenir les yeux baissés vers la terre ou levés en avant, comme s'il eût voulu lire l'avenir dans le brouillard du Tourniquet. Néanmoins, un matin, vers la fin du mois de septembre, la tête lutine de Caroline Crochard se détachait si brillamment sur le fond obscur de sa chambre et se montrait si fraîche au milieu des fleurs tardives et des feuillages flétris entrelacés autour des barreaux de la fenêtre. Enfin, la scène journalière présentait alors des oppositions d'ombre et de lumière, de blanc et de rose, si bien mariées à la mousseline que festonnait la gentille ouvrière, avec les tons bruns et rouges des fauteuils, que l'inconnu contempla fort attentivement les effets de ce vivant tableau. Fatiguée de l'indifférence de son monsieur noir, la vieille mère avait, à la vérité, pris le parti de faire un tel cliquetis avec ses bobines que le passant morne et soucieux fut peut-être contraint par ce bruit insolite à regarder chez elle. L'étranger échangea seulement avec Caroline un regard, rapide il est vrai, mais par lequel leurs âmes eurent un léger contact, et ils conçurent tous deux le pressentiment qu'ils penseraient l'un à l'autre. Quand le soir à 4 heures, l'inconnu revint, Caroline distingua le bruit de ses pas sur le pavé criard, et quand ils s'examinèrent, il y eut de part et d'autre une sorte de préméditation. Les yeux du passant furent animés d'un sentiment de bienveillance qui le fit sourire, et Caroline rougit. La vieille mère les observa tous deux d'un air satisfait. À compter de cette mémorable matinée, le monsieur noir traversa 2 fois par jour la rue du Tourniquet. À quelques exceptions près que les femmes surent remarquer, elles jugèrent, d'après l'irrégularité de ses heures de retour, qu'il n'était ni aussi promptement libre, ni aussi strictement exact qu'un employé subalterne. Pendant les 3 premiers mois de l'hiver, 2 fois par jour, Caroline et le passant se virent ainsi pendant le temps qu'il mettait à franchir l'espace de chaussée occupé par la porte et par les 3 fenêtres de la maison. De jour en jour, cette rapide entrevue eut un caractère d'intimité bienveillante qui finit par contracter quelque chose de fraternel. Caroline et l'inconnu parurent d'abord se comprendre. Puis, à force d'examiner l'un et l'autre leur visage, ils en prirent une connaissance approfondie. Ce fut bientôt comme une visite que le passant faisait à Caroline. Si par hasard son monsieur noir passait sans lui apporter le sourire à demi formé par sa bouche éloquente, ou le regard ami de ses yeux bruns, il lui manquait quelque chose. Sa journée était incomplète. Elle ressemblait à ces vieillards pour lesquels la lecture de leur journal est devenue un tel plaisir que le lendemain d'une fête solennelle, ils s'en vont tout déroutés demandant, autant par mégarde que par impatience, la feuille à l'aide de laquelle ils trompent un moment le vide de leur existence. Mais ces fugitives apparitions avaient autant pour l'inconnu que pour Caroline l'intérêt d'une causerie familière entre 2 amis. La jeune fille ne pouvait pas plus dérober à l'œil intelligent de son silencieux ami une tristesse, une inquiétude, un malaise que celui-ci ne pouvait cacher à Caroline une préoccupation. Il a eu du chagrin hier, était une pensée qui naissait souvent au cœur de l'ouvrière quand elle contemplait la figure altérée du monsieur noir. « Oh, il a beaucoup travaillé !» était une exclamation due à d'autres nuances que Caroline savait distinguer. L'inconnu devinait aussi que la jeune fille avait passé son dimanche à finir la robe au dessin de laquelle il s'était intéressé. Il voyait, aux approches des termes de loyer, cette jolie figure assombrie par l'inquiétude, et il devinait quand Caroline avait veillé. Mais il avait surtout remarqué comment les pensées tristes qui défloraient les traits gais et délicats de cette jeune tête s'étaient graduellement dissipées à mesure que leur connaissance avait vieilli. Lorsque l'hiver vint sécher les tiges, les fleurs et les feuillages du jardin parisien qui décorait la fenêtre, et que la fenêtre se ferma, l'inconnu ne vit pas, sans un sourire doucement malicieux, la clarté extraordinaire du carreau qui se trouvait à la hauteur de la fenêtre de Caroline. La parcimonie du feu, quelques traces d'une rougeur qui couperosait la figure des deux femmes, lui dénoncèrent l'indigence du petit ménage. Mais si quelque douloureuse compassion se peignait alors dans ses yeux, Caroline lui opposait une gaieté fière. Cependant, les sentiments éclos au fond de leur cœur y restaient ensevelis, sans qu'aucun événement leur en apprît l'un à l'autre la force et l'étendue. Ils ne connaissaient même pas le son de leur voix. Ces deux amis muets se gardaient comme d'un malheur de s'engager dans une plus intime union. Chacun d'eux semblait craindre d'apporter à l'autre une infortune plus pesante que celle qu'ils voulaient partager. Était-ce cette pudeur d'amitié qui les arrêtait ainsi? Était-ce une appréhension de l'égoïsme ou cette méfiance atroce qui sépare tous les habitants réunis dans les murs d'une nombreuse cité? La voix secrète de leur conscience les avertissait d'un péril prochain. Il serait impossible d'expliquer le sentiment qui les rendait aussi ennemis qu'amis, aussi indifférents l'un à l'autre qu'ils étaient attachés, aussi unis par l'instinct que séparés par le fait. Peut-être chacun d'eux voulait-il conserver ses illusions. On eût dit parfois que l'inconnu craignait entendre sortir quelques paroles grossières de ses lèvres aussi fraîches, aussi pures qu'une fleur, et que Caroline ne se croyait pas digne de cet être mystérieux en qui tout révélait le pouvoir et la fortune. Quant à Madame Crochard, cette tendre mère, presque mécontente de l'indécision dans laquelle restait sa fille, montrait une mine boudeuse à son monsieur noir, à qui elle avait jusque-là toujours souri d'un air aussi complaisant que servile. Jamais elle ne s'était plainte aussi amèrement à sa fille d'être encore à son âge obligée de faire la cuisine. À aucune époque ses rhumatismes et son catarrhe ne lui avaient arraché autant de gémissements. Enfin, elle ne sut pas faire, pendant cet hiver, le nombre d'aunes de tulle sur lequel Caroline avait compté jusqu'alors. Dans ces circonstances, et vers la fin du mois de décembre, à l'époque où le pain était le plus cher et où l'on ressentait déjà le commencement de cette cherté des grains qui rendit l'année 1816 si cruelle aux pauvres gens, le passant remarqua sur le visage de la jeune fille, dont le nom lui était inconnu, les traces affreuses d'une pensée secrète que ses sourires bienveillants ne dissipèrent pas. Bientôt, il reconnut dans les yeux de Caroline les flétrissants indices d'un travail nocturne. Dans une des dernières nuits de ce mois, le passant revint, contrairement à ses habitudes, vers 1 heure du matin par la rue du Tourniquet-Saint-Jean. Le silence de la nuit lui permit d'entendre de loin, avant d'arriver à la maison de Caroline, la voix pleurarde de la vieille mère et celle plus douloureuse de la jeune ouvrière, dont les éclats retentissaient mêlés au sifflement d'une pluie de neige. Il tâcha d'arriver à pas lents, puis, au risque de se faire arrêter, il se tapit devant la croisée pour écouter la mère et la fille, en les examinant par le plus grand des trous qui découpaient les rideaux de mousseline jaunie et les rendait semblables à ces grandes feuilles de choux mangées en rond par des chenilles. Le curieux passant vit un papier timbré sur la table qui séparait les deux métiers et sur laquelle était posée la lampe entre les deux globes pleins d'eau. Il reconnut facilement une assignation. Madame Crochard pleurait, et la voix de Caroline avait un son guttural qui en altérait le timbre doux et caressant. « Pourquoi tant te désoler, ma mère ? Monsieur Molineux ne vendra pas nos meubles et ne nous chassera pas avant que j'aie terminé cette robe. Encore 2 nuits, et j'irai la porter chez Madame Roguin. Et si elle te fait attendre comme toujours, mais le prix de ta robe paiera-t-il aussi le boulanger ? Le spectateur de cette scène possédait une telle habitude de lire sur les visages qu'il crut entrevoir autant de fausseté dans la douleur de la mère que de vérité dans le chagrin de la fille. Il disparut aussitôt et revint quelques instants après. Quand il regarda par le trou de la mousseline, la mère était couchée. Penchée sur son métier, la jeune ouvrière travaillait avec une infatigable activité. Sur la table, à côté de l'assignation, se trouvait un morceau de pain triangulairement coupé, posé sans doute là pour la nourrir pendant la nuit, tout en lui rappelant la récompense de son courage. L'inconnu frissonna d'attendrissement et de douleur. Il jeta sa bourse à travers une vitre fêlée de manière à la faire tomber aux pieds de la jeune fille. Puis, sans jouir de sa surprise, il s'évada, le cœur palpitant, les joues en feu. Le lendemain, le triste et sauvage étranger passa en affectant un air préoccupé, mais il ne put échapper à la reconnaissance de Caroline, qui avait ouvert la fenêtre et s'amusait à bêcher, avec un couteau, la caisse carrée couverte de neige, prétexte dont la maladresse ingénieuse annonçait à son bienfaiteur qu'elle ne voulait pas, cette fois, le voir à travers les vitres. La brodeuse fit, les yeux pleins de larmes, un signe de tête à son protecteur comme pour lui dire « Je ne puis vous payer qu'avec le cœur ». Mais l'inconnu parut ne rien comprendre à l'expression de cette reconnaissance vraie. Le soir, quand il repassa, Caroline, qui s'occupait à recoller une feuille de papier sur la vitre brisée, put lui sourire en montrant, comme une promesse, l'émail de ses dents brillantes. Le monsieur noir prit dès lors un autre chemin et ne se montra plus dans la rue du Tourniquet. Fin de la 30e section. Section des scènes de la vie privée, tome 1, une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, une double famille, par Honoré de Balzac, 31e section. Dans les premiers jours du mois de mai suivant, un samedi matin que Caroline apercevait, entre les deux lignes noires des maisons, une faible portion d'un ciel sans nuages, et pendant qu'elle arrosait avec un verre d'eau le pied de son chèvrefeuille, elle dit à sa mère « Maman, il faut aller demain nous promener à Montmorency. » À peine cette phrase était-elle prononcée d'un air joyeux, que le monsieur noir vint à passer, plus triste et plus accablé que jamais. Le chaste et caressant regard que Caroline lui jeta pouvait passer pour une invitation. Aussi le lendemain, quand Madame Crochard, vêtue d'une redingote de mérinos brun rouge, d'un chapeau de soie et d'un châle à grandes raies, imitant le cachemire, se présenta pour choisir un coucou au coin de la rue du Faubourg Saint-Denis et de la rue d'Enghien, y trouva-t-elle son inconnu, planté sur ses pieds comme un homme qui attend sa femme. Un sourire de plaisir dérida la figure de l'étranger quand il aperçut Caroline, dont le petit pied était chaussé de guêtres en prunelles couleur puce, dont la robe blanche, emportée par un vent perfide pour les femmes mal faites, dessinait des formes attrayantes, et dont la figure, ombragée par un chapeau de paille de riz doublé en satin rose, était comme illuminée d'un reflet céleste. Sa large ceinture de couleur puce faisait valoir une taille à tenir entre les deux mains. Ses cheveux, partagés en deux bandeaux de bistre sur un front blanc comme de la neige, lui donnait un air de candeur que rien ne démentait. Le plaisir semblait rendre Caroline aussi légère que la paille de son chapeau. Mais il y eut en elle une espérance qui éclipsa tout à coup sa parure et sa beauté quand elle vit le monsieur noir. Celui-ci, qui semblait irrésolu, fut peut-être décidé à servir de compagnon de voyage à l'ouvrière par la subite révélation du bonheur que causait sa présence. Il loua, pour aller à Saint-Leu-Taverny, un cabriolet dont le cheval paraissait assez bon. Il offrit à Madame Crochard et à sa fille d'y prendre place, et la mère accepta sans se faire prier. Mais au moment où la voiture se trouva sur la route de Saint-Denis, elle s'avisa d'avoir des scrupules et de hasarder quelques civilités sur la gêne que deux femmes allaient causer à leur compagnon. « Monsieur voulait peut-être se rendre seul à Saint-Leu, » dit-elle avec une fausse bonhomie. Mais elle ne tarda pas à se plaindre de la chaleur, et surtout de son catarrhe, qui, disait-elle, ne lui avait pas permis de fermer l'œil une seule fois pendant la nuit. Aussi, à peine la voiture eut-elle atteint Saint-Denis que Madame Crochard parut endormie. Quelques-uns de ses ronflements semblèrent suspects à l'inconnu, qui fronça les sourcils en regardant la vieille femme d'un air singulièrement soupçonneux. « Oh, elle dort !» dit naïvement Caroline. « Elle n'a pas cessé de tousser depuis hier soir. Elle doit être bien fatiguée. » Pour toute réponse, le compagnon de voyage jeta sur la jeune fille un rusé sourire comme pour lui dire « Innocente créature, tu ne connais pas ta mère. » Cependant, malgré sa défiance, et quand la voiture roula sur la terre dans cette longue avenue de peupliers qui conduit à Aubonne, le monsieur noir crut Madame Crochard réellement endormie. Peut-être aussi ne voulait-il plus examiner jusqu'à quel point ce sommeil était fin ou véritable. Soit que la beauté du ciel, l'air pur de la campagne et ses parfums enivrants, répandus par les premières pousses des peupliers, par les fleurs du sol et par celles des épines blanches, eussent disposé son cœur à s'épanouir comme s'épanouissait la nature, soit qu'une plus longue contrainte lui devint importune, ou que les yeux pétillants de Caroline eussent répondu à l'inquiétude des siens, l'inconnu entreprit, avec sa jeune compagne, une conversation aussi vague que les balancements des arbres sous l'effort de la brise, aussi vagabonde que les détours du papillon dans l'air bleu, aussi peu raisonnée que la voix doucement mélodieuse des chants, mais empreinte comme elle d'un mystérieux amour. À cette époque, la campagne n'est-elle pas frémissante comme une fiancée qui a revêtu sa robe d'hyménée et ne convie-t-elle pas au plaisir les âmes les plus froides? Quitter les rues ténébreuses du Marais pour la première fois depuis le dernier automne et se trouver au sein de l'harmonieuse et pittoresque vallée de Montmorency. La traverser au matin en ayant devant les yeux l'infini de ses horizons et pouvoir reporter de là son regard sur des yeux qui peignent aussi l'infini en exprimant l'amour. Quel cœur resterait glacé, quelles lèvres garderaient un secret. L'inconnu trouva Caroline plus gaie que spirituelle, plus aimante qu'instruite. Mais si son rire accusait de la folâtrerie, ses paroles promettaient un sentiment vrai. Quant aux interrogations sagaces de son compagnon, la jeune fille répondait par une effusion de cœur que les classes inférieures prodiguent sans y mettre de réticence, comme les gens du grand monde, la figure du monsieur noir s'animait et semblait renaître. Sa physionomie perdait par degrés la tristesse qui en contractait les traits. Puis, de teinte en teinte, elle prit un air de jeunesse et un caractère de beauté qui rendirent Caroline heureuse et fière. La jolie brodeuse devina que son protecteur était un être sevré depuis longtemps de tendresse et d'amour, de plaisir et de caresse, ou que peut-être il ne croyait plus au dévouement d'une femme. Enfin, une saillie inattendue du léger babil de Caroline enleva le dernier voile qui ôtait à la figure de l'inconnu sa jeunesse réelle et son caractère primitif. Il sembla faire un éternel divorce avec des idées importunes et déploya la vivacité d'âme que décelait sa figure. La causerie devint insensiblement si familière qu'au moment où la voiture s'arrêta aux premières maisons du long village de Saint-Leu, Caroline nommait l'inconnu Monsieur Roger. Pour la première fois seulement, la vieille mère se réveilla. « Caroline ?» « Elle aura tout entendu, » dit Roger d'une voix soupçonneuse à l'oreille de la jeune fille. Caroline répondit par un ravissant sourire d'incrédulité qui dissipa le nuage sombre que la crainte d'un calcul chez la mère avait répandu sur le front de cet homme défiant. Sans s'étonner de rien, Madame Crochard approuva tout, suivit sa fille et Monsieur Roger dans le parc de Saint-Leu, où les deux jeunes gens étaient convenus d'aller pour visiter les riantes prairies et les bosquets embaumés que le goût de la reine Hortense a rendu si célèbre. « Mon Dieu, combien cela est beau !» s'écria Caroline. lorsque, montée sur la croupe verte où commence la forêt de Montmorency, elle aperçut à ses pieds l'immense vallée qui déroulait ses sinuosités semées de villages, les horizons bleuâtres de ses collines, ses clochers, ses prairies, ses champs, et dont le murmure vint expirer à l'oreille de la jeune fille comme un bruissement de la mer. Les trois voyageurs côtoyèrent les bords d'une rivière factice et arrivèrent à cette vallée suisse dont le chalet reçut plus d'une fois la reine Hortense et Napoléon. Quand Caroline se fut assise avec un saint respect sur le banc de bois moussu où s'étaient reposés des rois, des princesses et l'empereur, Madame Crochard manifesta le désir de voir de plus près un pont suspendu entre deux rochers qui s'apercevaient au loin, et se dirigea vers cette curiosité champêtre, en laissant son enfant sous la garde de Monsieur Roger, mais en lui disant qu'elle ne les perdrait pas de vue. Eh quoi, pauvre petite, s'écria Roger, vous n'avez jamais désiré la fortune et les jouissances du luxe? Vous ne souhaitez pas quelquefois de porter les belles robes que vous brodez? Je vous mentirais, monsieur Roger, si je vous disais que je ne pense pas au bonheur dont jouissent les riches. Ah oui, je songe souvent quand je m'endors, surtout au plaisir que j'aurai de voir ma pauvre mère ne pas être obligée d'aller par le mauvais temps chercher nos petites provisions à son âge. Je voudrais que le matin une femme de ménage lui apportât, pendant qu'elle est encore au lit, son café bien sucré avec du sucre blanc. Elle aime à lire des romans, la pauvre bonne femme. Eh bien, je préférerais lui voir user ses yeux à sa lecture favorite, plutôt qu'à remuer des bobines depuis le matin jusqu'au soir. Il lui faudrait aussi un peu de bon vin. Enfin, je voudrais la savoir heureuse. Elle est si bonne. Elle vous a donc bien prouvé sa bonté ? Oh oui, répliqua la jeune fille d'un son de voix profond. Puis, après un assez court moment de silence pendant lequel les deux jeunes gens regardèrent Madame Crochard qui, parvenue au milieu du pont rustique, les menaçait du doigt, Caroline reprit « Oh oui, elle me l'a prouvé. Combien ne m'a-t-elle pas soignée quand j'étais petite? Elle a vendu ses derniers couverts d'argent pour me mettre en apprentissage chez la vieille fille qui m'a appris à broder. Et mon pauvre père? Combien de mal n'a-t-elle pas eu pour lui faire passer heureusement ses derniers moments ?» À cette idée, la jeune fille tressaillit et se fit un voile de ses deux mains. « Ah bah, ne pensons jamais au malheur passé, » dit-elle en essayant de reprendre un air enjoué. Elle rougit en s'apercevant que Roger s'était attendri, mais elle n'osa le regarder. « Que faisait donc votre père ? » demanda-t-il. « Mon père était danseur à l'opéra, avant la Révolution, » dit-elle de l'air le plus naturel du monde, et ma mère chantait dans les chœurs. Mon père, qui commandait les évolutions sur le théâtre, se trouva par hasard à la prise de la Bastille. Il fut reconnu par quelques-uns des assaillants qui lui demandèrent s'il ne dirigerait pas bien une attaque réelle, lui qui en commandait de feintes au théâtre. Mon père était brave, il accepta, conduisit les insurgés et fut récompensé par le grade de capitaine dans l'armée de Sambre-et-Meuse, où il se comporta de manière à monter rapidement en grade. Il devint colonel. Mais il fut si grièvement blessé à Lutzen qu'il est revenu mourir à Paris après un an de maladie. Les Bourbons sont arrivés, ma mère n'a pu obtenir de pension, et nous sommes retombés dans une si grande misère qu'il a fallu travailler pour vivre. Depuis quelque temps, la bonne femme est devenue maladive. Aussi jamais ne l'ai-je vue si peu résignée. Elle se plaint, et je le conçois, elle a goûté les douceurs d'une vie heureuse. Quant à moi, qui ne saurais regretter des délices que je n'ai pas connues, je ne demande qu'une seule chose au ciel. « Quoi ? » dit vivement Roger qui semblait rêveur. « Que les femmes portent toujours des tulles brodées pour que l'ouvrage ne manque jamais. » La franchise de ses aveux intéressa le jeune homme, qui regarda d'un œil moins hostile Madame Crochard, quand elle revint vers eux d'un pas lent. « Eh bien, mes enfants, avez-vous bien jasé ?» leur demanda-t-elle d'un air tout à la fois indulgent et railleur. « Quand on pense, monsieur Roger, que le petit caporal s'est assis là où vous êtes, » reprit-elle après un moment de silence. « Pauvre homme, » ajouta-t-elle, « mon mari l'aimait-il ? Ah ! Crochard a aussi bien fait de mourir, car il n'aurait pas enduré de le savoir là où ils l'ont mis. » Roger posa un doigt sur ses lèvres, et la bonne vieille, hochant la tête, dit d'un air sérieux « Suffit, on aura la bouche close et la langue morte. Mais, ajouta-t-elle en ouvrant les bords de son corsage et montrant une croix et son ruban rouge suspendu à son cou par une faveur noire, ils ne m'empêcheront pas de porter ce que l'autre a donné à mon pauvre crochard, et je me ferai certes enterrer avec. » En entendant des paroles qui passaient alors pour séditieuses, Roger interrompit la vieille mère en se levant brusquement, et ils retournèrent au village, à travers les allées du parc. Le jeune homme s'absenta pendant quelques instants pour aller commander un repas chez le meilleur traiteur de Taverny. Puis il revint chercher les deux femmes et les y conduisit en les faisant passer par les sentiers de la forêt. Le dîner fut gai. Roger n'était déjà plus cette ombre sinistre qui passait naguère rue du Tourniquet. Il ressemblait moins au monsieur noir qu'à un jeune homme confiant, prêt à s'abandonner au courant de la vie. Comme ces deux femmes insouciantes et laborieuses qui, le lendemain peut-être, manqueraient de pain. Il paraissait être sous l'influence des joies du premier âge. Son sourire avait quelque chose de caressant et d'enfantin. Quand, sur les 5 heures, le joyeux dîner fut terminé par quelques verres de vin de champagne, Roger proposa le premier d'aller sous les châtaigniers au bal du village, où Caroline et lui dansèrent ensemble. Leurs mains se pressèrent avec intelligence, leurs cœurs battirent, animés d'une même espérance, et sous le ciel bleu, aux rayons obliques et rouges du couchant, leurs regards arrivèrent à un éclat qui, pour eux, faisait pâlir celui du ciel. Étrange puissance d'une idée et d'un désir. Rien ne semblait impossible à ces deux êtres. Dans ces moments magiques où le plaisir jette ses reflets jusque sur l'avenir, l'âme ne prévoit que du bonheur. Cette jolie journée avait déjà créé pour tous deux des souvenirs auxquels ils ne pouvaient rien comparer dans le passé de leur existence. La source serait-elle donc plus gracieuse que le fleuve? Le désir serait-il plus ravissant que la jouissance, et ce qu'on espère plus attrayant que tout ce qu'on possède? Voilà donc la journée déjà finie. Cette exclamation échappait à l'inconnu au moment où cessait la danse, et Caroline le regarda d'un air compatissant en lui voyant reprendre une légère teinte de tristesse. Pourquoi ne seriez-vous pas aussi content à Paris qu'ici? Dit-elle. Le bonheur n'est-il qu'à Saint-Leu? Il me semble maintenant que je ne puis être malheureuse nulle part. » L'inconnu tressaillit à ces paroles dictées par ce doux abandon qui entraîne toujours les femmes plus loin qu'elles ne veulent aller, de même que la pruderie leur donne souvent plus de cruauté qu'elles n'en ont. Pour la première fois depuis le regard qui avait en quelque sorte commencé leur amitié, Caroline et Roger eurent une même pensée. S'ils ne l'exprimèrent pas, ils la sentirent au même moment par une mutuelle impression semblable à celle d'un bienfaisant foyer qui les aurait consolés des atteintes de l'hiver. Puis, comme s'ils eussent craint leur silence, ils se rendirent alors à l'endroit où leur modeste voiture les attendait. Mais avant d'y monter, ils se prirent fraternellement par la main et coururent dans une allée sombre devant Madame Crochard. Quand ils ne virent plus le blanc bonnet de tulle qui leur indiquait la vieille mère, comme un point à travers les feuilles. « Caroline, » dit Roger d'une voix troublée et le cœur palpitant. La jeune fille confuse recula de quelques pas en comprenant les désirs que cette interrogation révélait. Néanmoins, elle tendit sa main qui fut baisée avec ardeur et qu'elle retira vivement, car en se levant sur la pointe des pieds, elle avait aperçu sa mère. Madame Crochard fit semblant de ne rien voir, comme si, par un souvenir de ses anciens rôles, elle eût dû ne figurer là qu'en aparté. L'aventure de ces deux jeunes gens ne se continua pas longtemps dans la rue du Tourniquet. Pour retrouver Caroline et Roger, il est nécessaire de se transporter au milieu du Paris moderne, où il existe, dans les maisons nouvellement bâties, de ces appartements qui semblent faits exprès pour que de nouveaux mariés y passent leur lune de miel. Les peintures et les papiers y sont jeunes comme les époux, et la décoration en est dans sa fleur comme leur amour. Tout y est en harmonie avec de jeunes idées, avec de bouillants désirs. Au milieu de la rue Têtebout, dans une maison dont la pierre de taille était encore blanche, dont les colonnes du vestibule et de la porte n'avaient encore aucune souillure et dont les murs reluisaient de cette peinture d'un blanc de plomb que nos premières relations avec l'Angleterre mettaient à la mode, se trouvait au second étage un petit appartement arrangé par l'architecte comme s'il en avait deviné la destination. Une simple et fraîche antichambre, revêtue en stuc à hauteur d'appui, donnait entrée dans un salon et dans une petite salle à manger. Le salon communiquait à une jolie chambre à coucher, à laquelle attenait une salle de bain. Les cheminées y étaient toutes garnies de hautes glaces encadrées avec recherche. Les portes avaient pour ornement des arabesques de bon goût, et les corniches étaient d'un style pur. Un amateur aurait reconnu là, mieux qu'ailleurs, cette science de distribution et de décor qui distingue les œuvres de nos architectes modernes. Cet appartement était habité depuis un mois environ par Caroline, pour qui l'un de ces tapissiers qui ne travaillent que guidés par les artistes l'avait meublé soigneusement. La description succincte de la pièce la plus importante suffira pour donner une idée des merveilles que cet appartement avait présentées à celle qui vint s'y installer, amenée par Roger. Des tentures en étoffe grise, égayées par des agréments en soie verte, décoraient les murs de sa chambre à coucher. Les meubles, couverts en casimir clair, avaient les formes gracieuses et légères ordonnées par le dernier caprice de la mode. Une commode en bois, indigène, incrustée de filets bruns, gardait les trésors de la parure. Un secrétaire, pareil, servait à écrire de doux billets sur un papier parfumé. Le lit, drapé à l'antique, ne pouvait inspirer que des idées de volupté par la mollesse de ses mousselines élégamment jetées. Les rideaux de soie grise à franges vertes étaient toujours étendus de manière à intercepter le jour. Une pendule de bronze représentait l'amour couronnant Psyché. Enfin, un tapis à dessins gothiques, imprimé sur un fond rougeâtre, faisait ressortir les accessoires de ce lieu plein de délices. En face d'une Psyché se trouvait une petite toilette, devant laquelle l'ex-brodeuse s'impatientait de la science de plaisir, un illustre coiffeur. « Espérez-vous finir ma coiffure aujourd'hui ?» dit-elle. « Madame a les cheveux si longs et si épais !» répondit Plaisir. Caroline ne put s'empêcher de sourire. La flatterie de l'artiste avait sans doute réveillé dans son cœur le souvenir des louanges passionnées que lui adressait son ami sur la beauté d'une chevelure qu'il idolâtrait. Le coiffeur parti, la femme de chambre vint tenir conseil avec elle sur la toilette qui plairait le plus à Roger. On était alors au commencement de septembre 1816. Il faisait froid. Une robe de grenadine verte garnie en chinchilla fut choisie. Aussitôt sa toilette terminée, Caroline s'élança vers le salon, y ouvrit une croisée qui donnait sur l'élégant balcon dont la façade de la maison était décorée et se croisa les bras en s'appuyant sur une rampe en fer bronzé. Elle resta là dans une attitude charmante, non pour s'offrir à admiration des passants et leur voir tourner la tête vers elle, mais pour regarder la petite portion de boulevard qu'elle pouvait apercevoir au bout de la rue Taitbout. Cette échappée de vue, que l'on comparerait volontiers aux trous pratiqués par les acteurs dans un rideau de théâtre, lui permettait de distinguer une multitude de voitures élégantes et une foule de monde emportés avec la rapidité des ombres chinoises. Ignorant si Roger viendrait à pied ou en voiture, l'ancienne ouvrière de la rue du Tourniquet examinait tour à tour les piétons et les tilburys, voitures légères, récemment importées en France par les Anglais. Des expressions de mutinerie et d'amour passaient sur sa jeune figure quand, après un quart d'heure d'attente, son œil perçant ou son cœur ne lui avait pas encore fait reconnaître celui qu'elle savait devoir venir. Quel mépris, quelle insouciance se peignait sur son beau visage pour toutes les créatures qui s'agitaient comme des fourmis sous ses pieds. Ses yeux gris, pétillants de malice, étincelaient. Elle était là, pour elle-même, sans se douter que tous les jeunes gens emportaient mille confus désirs à l'aspect de ses formes attrayantes. Elle évitait leurs hommages avec autant de soin que les plus fiers en mettent à les recueillir pendant leur promenade à Paris, et ne s'inquiétait certes guère si le souvenir de sa blanche figure penchée ou de son petit pied qui dépassait le balcon si la piquante image de ses yeux animés et de son nez voluptueusement retroussé s'effacerait ou non le lendemain du cœur des passants qui l'avaient admirée. Elle ne voyait qu'une figure et n'avait qu'une idée. Quand la tête mouchetée d'un certain cheval bai brun vint à passer la haute ligne tracée dans l'espace par les maisons, Caroline tressaillit et se haussa sur la pointe des pieds pour tâcher de reconnaître les guides blanches et la couleur du tilbury. C'était lui. Roger tourne l'angle de la rue, voit le balcon, fouette son cheval qui s'élance et arrive à cette porte bronzée à laquelle il est aussi habitué que son maître. La porte de l'appartement fut ouverte d'avance par la femme de chambre qui avait entendu le cri de joie jeté par sa maîtresse. Roger se précipita vers le salon, pressa Caroline dans ses bras et l'embrassa avec cette effusion de sentiments que provoquent toujours les réunions peu fréquentes de deux êtres qui s'aiment. Il l'entraîna, ou plutôt ils marchèrent par une volonté unanime, quoique enlacés dans les bras l'un de l'autre, vers cette chambre discrète et embaumée. Une causeuse les reçut devant le foyer, et ils se contemplèrent un moment en silence, en exprimant leur bonheur que par les vives étreintes de leurs mains, en se communiquant leurs pensées par un long regard. « Oui, c'est lui, » dit-elle enfin. « Oui, c'est toi. Sais-tu que voici trois grands jours que je ne t'ai vu ? Un siècle ? Mais qu'as-tu ? Tu as du chagrin ? Ma pauvre Caroline. Oh, voilà ma pauvre Caroline. N'en ris pas, mon ange. Nous ne pouvons pas aller ce soir à Feydeau. » Caroline fit une petite mine boudeuse, mais qui se dissipa tout à coup. « Je suis une sotte. Comment puis-je penser au spectacle quand je te vois ? Te voir, n'est-ce pas le seul spectacle que j'aime ? » s'écria-t-elle en passant ses doigts dans les cheveux de Roger. « Je suis obligée d'aller chez le procureur général, car nous avons en ce moment une affaire épineuse. Il m'a rencontrée dans la grande salle, et comme c'est moi qui porte la parole, il m'a engagée à venir dîner avec lui. Mais, ma chérie, tu peux aller à Feydeau avec ta mère. Je vous y rejoindrai si la conférence finit de bonne heure. » « Aller au spectacle sans toi ? » s'écria-t-elle avec une expression d'étonnement. « Ressentir un plaisir que tu ne partagerais pas ? Oh, mon Roger ! Vous mériteriez de ne pas être embrassé, » ajouta-t-elle en lui sautant au cou par un mouvement aussi naïf que voluptueux. « Caroline, il faut que je rentre m'habiller. Le marais est loin et j'ai encore quelques affaires à terminer. » « Monsieur, » reprit Caroline en l'interrompant, « prenez garde à ce que vous dites là. Ma mère m'a averti que quand les hommes commencent à nous parler de leurs affaires, ils ne nous aiment plus. « Caroline, ne suis-je pas venue ? N'ai-je pas dérobé cette heure à mon impitoyable chut ? » dit-elle en mettant un doigt sur la bouche de Roger. « Chut ! Ne vois-tu pas que je me moque ?» En ce moment, ils étaient revenus tous les deux dans le salon. Roger y aperçut un meuble apporté le matin même par l'ébéniste. Le vieux métier en bois de rose dont le produit nourrissait Caroline et sa mère quand elles habitaient la rue du Tourniquet-Saint-Jean avait été remis à neuf et une robe de tulle d'un riche dessin y était déjà tendue. « Eh bien, mon bon ami, ce soir je travaillerai. En brodant, je me croirai encore à ces premiers jours où tu passais devant moi sans maudire, mais non sans me regarder. À ces jours où le souvenir de tes regards me tenait éveillé pendant la nuit. » « Oh, mon cher métier, le plus beau meuble de mon salon, quoiqu'il ne me vienne pas de toi. « Tu ne sais pas, » dit-elle en s'asseyant sur les genoux de Roger, qui, ne pouvant résister à ses émotions, était tombé dans un fauteuil. « Écoute-moi donc. Je veux donner aux pauvres tout ce que je gagnerai avec ma broderie. Tu m'as faite si riche. Combien j'aime cette jolie terre de belles feuilles, moins pour ce qu'elle est que parce que c'est toi qui me l'as donnée. Mais dis-moi, mon Roger, je voudrais m'appeler Caroline de Bellefeuille. Le puis-je ? Tu dois le savoir. Est-ce légal ou toléré ? » Il fit une petite moue d'affirmation qui lui était suggérée par sa haine pour le nom de Crochard, et Caroline sauta légèrement en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Il me semble, s'écria-t-elle, que je t'appartiendrai bien mieux ainsi. Ordinairement, une fille renonce à son nom et prend celui de son mari. » Une idée importune qu'elle chassa aussitôt la fit rougir. Elle prit Roger par la main et le mena devant un piano ouvert. « Écoute, » dit-elle, « je sais maintenant ma sonate comme un ange. » Et ses doigts couraient déjà sur les touches d'ivoire quand elle se sentit saisie et enlevée par la taille. « Caroline, je devrais être loin. Tu veux partir ? Eh bien, va-t'en, » dit-elle en boudant. Mais elle sourit après avoir regardé la pendule et s'écria joyeusement « Je t'aurais toujours gardé un quart d'heure de plus. » « Adieu, mademoiselle de Bellefeuille, » dit-il avec la douce ironie de l'amour. Après avoir pris un baiser, elle reconduisit son Roger jusque sur le seuil de la porte. Quand le bruit de ses pas ne retentit plus dans l'escalier, elle accourut sur le balcon pour le voir montant dans le tilbury, pour lui voir en prendre les guides, pour recueillir un dernier regard, entendre le coup de fouet, le roulement des roues sur le pavé, et pour suivre des yeux le brillant cheval, le chapeau du maître, le galon d'or qui garnissait celui du jockey, pour regarder même longtemps encore après que l'angle noir de la rue lui eut dérobé cette vision. Fin de la 31e section. Trente-deuxième section. Des scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille, par Honoré de Balzac. 32e section. 5 ans après l'installation de mademoiselle Caroline de Bellefeuille dans la jolie maison de la rue Têtebout, il s'y passa, pour la seconde fois, une de ces scènes domestiques qui resserrent encore les liens d'affection entre deux êtres qui s'aiment. Au milieu du salon bleu, devant la fenêtre qui s'ouvrait sur le balcon, un petit garçon de 4 ans et demi faisait un tapage infernal en fouettant le cheval de carton sur lequel il était monté, et dont les deux arcs recourbés qui en soutenaient les pieds n'allaient pas assez vite au gré du tapageur. Sa jolie petite tête à cheveux blonds, qui retombait en 1000 boucles sur une collerette brodée, sourit comme une figure d'ange à sa mère quand, du fond d'une bergère, elle lui dit « Pas tant de bruit, Charles, tu vas réveiller ta petite sœur. » Le curieux enfant descendit alors brusquement de cheval, arriva sur la pointe des pieds comme s'il eût craint le bruit de ses pas sur le tapis, mit un doigt entre ses petites dents, demeura dans une de ces attitudes enfantines qui n'ont tant de grâce que parce que tout en est naturel, et leva le voile de mousseline blanche qui cachait le frais visage d'une petite fille endormie sur les genoux de sa mère. « Elle dort donc, Eugénie ? » dit-il tout étonné. « Pourquoi donc qu'elle dort quand nous sommes éveillés ? » ajouta-t-il en ouvrant de grands yeux noirs qui flottaient dans un fluide abondant. « Dieu seul sait cela, » répondit Caroline en souriant. La mère et l'enfant contemplèrent cette petite fille, baptisée le matin même. Caroline, alors âgée d'environ 24 ans, offrait tous les développements d'une beauté qu'un bonheur sans nuages et des plaisirs constants avaient fait épanouir. En elle, la femme était accomplie. Charmée d'obéir au désir de son cher Roger, elle avait acquis les connaissances qui lui manquaient. Elle touchait assez bien du piano et chantait agréablement. Ignorant les usages d'une société qui l'eût repoussée et où elle ne serait point allée quand même on l'y aurait accueillie, car la femme heureuse ne va pas dans le monde, elle n'avait su ni prendre cette élégance de manière, ni apprendre cette conversation pleine de mots et vide de pensées qui accourt dans les salons. Mais, en revanche, elle conquit laborieusement les connaissances indispensables à une mère dont toute l'ambition consiste à bien élever ses enfants. Ne pas quitter son fils, lui donner dès le berceau ces leçons de tous les moments qui gravent en de jeunes âmes le goût du beau et du bon. Le préserver de toute influence mauvaise, remplir à la fois les pénibles fonctions de la bonne et les douces obligations d'une mère, tels furent ses uniques plaisirs. Dès le premier jour, cette discrète et douce créature se résigna si bien à ne point faire un pas hors de la sphère enchantée où pour elle se trouvaient toutes ses joies, qu'après 6 ans de l'union la plus tendre, elle ne connaissait encore à son ami que le nom de Roger. placée dans sa chambre à coucher, la gravure du tableau de Psyché arrivant avec sa lampe pour voir l'amour, malgré sa défense, lui rappelait les conditions de son bonheur. Pendant ces 6 années, ses modestes plaisirs ne fatiguèrent jamais, par une ambition mal placée, le cœur de Roger, vrai trésor de bonté. Jamais elle ne souhaita ni diamant ni parure, et refusa le luxe d'une voiture 20 fois offerte à sa vanité. Attendre sur le balcon la voiture de Roger, aller avec lui au spectacle ou se promener ensemble pendant les beaux jours, dans les environs de Paris, l'espérer, le voir, et l'espérer encore, était l'histoire de sa vie, pauvre d'événements, mais pleine d'amour. En berçant sur ses genoux par une chanson la fille venue quelques mois avant cette journée, elle se plut à évoquer les souvenirs du temps passé. Elle s'arrêta plus volontiers sur les mois de septembre, époque à laquelle chaque année son Roger l'emmenait à Bellefeuille, y passer ces beaux jours qui semblent appartenir à toutes les saisons. La nature est alors aussi prodigue de fleurs que de fruits. Les soirées sont tièdes, les matinées sont douces, et l'éclat de l'été succède souvent à la mélancolie de l'automne. Pendant les premiers temps de son amour, elle avait attribué l'égalité d'âme et la douceur de caractère, dont tant de preuves lui furent données par Roger, à la rareté de leurs entrevues toujours désirées et à leur manière de vivre qui ne les mettait pas sans cesse en présence l'un de l'autre, comme le sont deux époux. Elle souvint, alors, avec délice que, tourmentée de vaines craintes, elle l'avait épié en tremblant pendant leur premier séjour à cette petite terre du Gâtinais. Inutile espionnage d'amour. Chacun de ces mois de bonheur passa comme un songe, au sein d'une félicité qui ne se démentit jamais. Elle avait toujours vu à ce bon être un tendre sourire sur les lèvres, sourire qui semblait être l'écho du sien. À ces tableaux trop vivement évoqués, ses yeux se mouillèrent de larmes. Elle crut ne pas aimer assez et fut tentée de voir, dans le malheur de sa situation équivoque, une espèce d'impôt mis par le sort sur son amour. Enfin, une invincible curiosité lui fit chercher pour la 1000e fois les événements qui pouvaient amener un homme aussi aimant que Roger à ne jouir que d'un bonheur clandestin, illégal. Elle forgea 1000 romans, précisément pour se dispenser d'admettre la véritable raison, depuis longtemps devinée, mais à laquelle elle essayait de ne pas croire. Elle se leva, tout en gardant son enfant endormi dans ses bras, pour aller présider, dans la salle à manger, à tous les préparatifs du dîner. Ce jour était le 6 mai 1822, anniversaire de la promenade au parc de Saint-Leu, pendant laquelle sa vie fut décidée. Aussi, chaque année, ce jour ramenait-il une fête de cœur. Caroline désigna le linge qui devait servir au repas et dirigea l'arrangement du dessert. Après avoir pris avec bonheur les soins qui touchaient Roger, elle déposa la petite fille dans sa jolie barcelonnette, vint se placer sur le balcon, et ne tarda pas à voir paraître le cabriolet par lequel son ami, parvenu à la maturité de l'homme, avait remplacé l'élégant tilbury des premiers jours. Après avoir essuyé le premier feu des caresses de Caroline et du petit espiègle qui l'appelait papa, Roger alla au berceau, contempla le sommeil de sa fille, la baisa sur le front et tira de la poche de son habit un long papier bariolé de lignes noires. « Caroline, dit-il, voici la dot de mademoiselle Eugénie de Bellefeuille. » La mère prit avec reconnaissance le titre d'otale, une inscription au grand livre de la dette publique. Pourquoi 3 000 francs de rente à Eugénie quand tu n'as donné que 1 500 francs à Charles? Charles, mon ange, sera un homme, répondit-il. 1 500 francs lui suffiront. Avec ce revenu, un homme courageux est au-dessus de la misère. Si par hasard ton fils est un homme nul, je ne veux pas qu'il puisse faire des folies. S'il a de l'ambition, cette modicité de fortune lui inspirera le goût du travail. Eugénie est femme, il lui faut une dot. » Le père se mit à jouer avec Charles, dont les caressantes démonstrations annonçaient l'indépendance et la liberté de son éducation. aucune crainte établie entre le père et l'enfant ne détruisait ce charme qui récompense la paternité de ses obligations, et la gaieté de cette petite famille était aussi douce que vraie. Le soir, une lanterne magique étala sur une toile blanche ses pièges et ses mystérieux tableaux, à la grande surprise de Charles. Plus d'une fois, les joies célestes de cette innocente créature excitèrent des fous rires sur les lèvres de Caroline et de Roger. Quand, plus tard, le petit garçon fut couché, la petite fille s'éveilla, demandant sa limpide nourriture. À la clarté d'une lampe, au coin du foyer, dans cette chambre de paix et de plaisir, Roger s'abandonna donc au bonheur de contempler le tableau suave que lui présentait cet enfant suspendu au sein de Caroline, blanche, fraîche comme un lys nouvellement éclos, et dont les cheveux retombaient en milliers de boucles brunes qui laissaient à peine voir son cou. La lueur faisait ressortir toutes les grâces de cette jeune mère en multipliant sur elle, autour d'elle, sur ses vêtements et sur l'enfant, ces effets pittoresques produits par les combinaisons de l'ombre et de la lumière. Le visage de cette femme calme et silencieuse parut mille fois plus doux que jamais à Roger, qui regarda tendrement ses lèvres chiffonnées et vermeilles, d'où jamais, encore, aucune parole discordante n'était sortie. La même pensée brilla dans les yeux de Caroline, qui examina Roger du coin de l'œil, soit pour jouir de l'effet qu'elle produisait sur lui, soit pour deviner l'avenir de la soirée. L'inconnu, qui comprit la coquetterie de ce regard fin, dit avec une feinte tristesse « Il faut que je parte. J'ai une affaire très grave à terminer. Et l'on m'attend chez moi. Le devoir avant tout, n'est-ce pas, ma chérie ?» Caroline l'espionna d'un air à la fois triste et doux, mais avec cette résignation qui ne laisse ignorer aucune des douleurs d'un sacrifice. « Adieu, dit-elle, va-t'en. Si tu restais une heure de plus, je ne te donnerais pas facilement ta liberté. » « Mon ange, répondit-il alors en souriant, j'ai 3 jours de congé, et suis censé à 20 lieues de Paris. » Quelques jours après l'anniversaire de ce 6 mai, mademoiselle de Bellefeuille accourut un matin dans la rue Saint-Louis, au Marais, en souhaitant ne pas arriver trop tard, dans une maison où elle se rendait ordinairement tous les 8 jours. Un exprès venait de lui apprendre que sa mère, Madame Crochard, succombait à une complication de douleur produite chez elle par ses catarrhes et par ses rhumatismes. Pendant que le cocher de fiacre fouettait ses chevaux d'après une invitation pressante que Caroline fortifia par la promesse d'un ample pourboire, les vieilles femmes timorées, desquelles la veuve Crochard s'était fait une société pendant ces derniers jours, introduisaient un prêtre dans l'appartement commode et propre occupé par la vieille comparse au second étage de la maison. La servante de Madame Crochard ignorait que la jolie demoiselle, chez laquelle sa maîtresse allait souvent dîner, fût sa propre fille. Et, l'une des premières, elle sollicita l'intervention d'un confesseur, en espérant que cet ecclésiastique lui serait au moins aussi utile qu'à la malade. Entre deux bostons, ou en se promenant au jardin turc, les vieilles femmes avec lesquelles la veuve Crochard caquetait tous les jours avaient réussi à réveiller dans le cœur glacé de leur amie quelques scrupules sur sa vie passée, quelques idées d'avenir, quelques craintes relatives à l'enfer, et certaines espérances de pardon fondées sur un sincère retour à la religion. Dans cette solennelle matinée, 3 vieilles femmes de la rue Saint-François et de la vieille rue du Temple étaient donc venues s'établir dans le salon où Madame Crochard les recevait tous les mardis. À tour de rôle, l'une d'elles quittait son fauteuil pour aller au chevet du lit tenir compagnie à la pauvre vieille et lui donner de ces faux espoirs avec lesquels on berce les mourants. Cependant, quand la crise leur parut prochaine, lorsque le médecin appelé, la veille, ne répondit plus de la veuve, les 3 dames se consultèrent pour décider s'il fallait avertir mademoiselle de Bellefeuille. Françoise, préalablement entendue, il fut arrêté qu'un commissionnaire partirait pour la rue Taitbout prévenir la jeune parente dont l'influence paraissait si redoutable aux 4 femmes. Mais elles espérèrent que l'Auvergnat ramènerait trop tard cette personne dotée d'une si grande part dans l'affection de Madame Crochard. Cette veuve, évidemment riche d'un 1000000 d'écus de rente, ne fut si bien choyée par le trio femelle que parce qu'aucune de ses bonnes amies, ni même Françoise, ne lui connaissait d'héritier. L'opulence dont jouissait mademoiselle de Bellefeuille, à qui madame Crochard s'interdisait de donner le doux nom de « fille » par suite des us de l'ancien opéra, légitimait presque le plan formé par ces quatre femmes de se partager la succession de la mourante. Bientôt, celle des trois sibylles qui tenait la malade en arrêt vint montrer une tête branlante au couple inquiet et dit « Il est temps d'envoyer chercher monsieur l'abbé Fontanon. Encore 2 heures, elle n'aura ni sa tête ni la force d'écrire un mot. » La vieille servante édentée partit donc et revint avec un homme vêtu d'une redingote noire. Un front étroit annonçait un petit esprit chez ce prêtre, déjà doué d'une figure commune. Ses joues larges et pendantes, son menton doublé, témoignaient d'un bien-être égoïste. Ses cheveux poudrés lui donnaient un air doucereux, tant qu'il ne levait pas des yeux bruns, petits, à fleur de tête, et qui n'eussent pas été mal placés sous les sourcils d'un tartare. « Monsieur l'abbé, lui disait Françoise, je vous remercie bien de vos avis. Mais aussi, comptez que j'ai eu un fier soin de cette chère femme-là. » La domestique, au pas traînant et à la figure en deuil, se tut en voyant que la porte de l'appartement était ouverte et que la plus insinuante des trois douairières stationnait sur le palier pour être la première à parler au confesseur. Quand l'ecclésiastique eut complaisamment essuyé la triple bordée des discours mielleux et dévots des amis de la veuve, il alla s'asseoir au chevet du lit de madame Crochard. La décence et une certaine retenue forcèrent les trois dames et la vieille Françoise de demeurer toutes quatre dans le salon à se faire des mines de douleur qu'il n'appartenait qu'à ses faces ridées de jouer avec autant de perfection. « Ah ! C'est-y malheureux ! S'écria Françoise en poussant un soupir. « Voilà pourtant la quatrième maîtresse que j'aurai le chagrin d'enterrer. La première m'a laissé 100 francs de viager, la seconde 50 écus, et la troisième 1000 écus de comptant. Après 30 ans de service, voilà tout ce que je possède. » La servante usa de son droit d'aller et venir pour se rendre dans un petit cabinet d'où elle pouvait entendre le prêtre. « Je vois avec plaisir, disait Fontanon, que vous avez, ma fille, des sentiments de piété. Vous portez sur vous une sainte relique. » Madame Crochard fit un mouvement vague qui n'annonçait pas qu'elle eût tout son bon sens, car elle montra la croix impériale de la Légion d'honneur. L'ecclésiastique recula d'un pas en voyant la figure de l'empereur. Puis il se rapprocha bientôt de sa pénitente, qui s'entretint avec lui d'un ton si bas que pendant quelque temps Françoise n'entendit rien. « Malédiction sur moi !» s'écria tout à coup la vieille. « Ne m'abandonnez pas. Comment, monsieur l'abbé, vous croyez que j'aurai à répondre de l'âme de ma fille ?» L'ecclésiastique parlait trop bas et la cloison était trop épaisse pour que Françoise pût tout entendre. « Hélas ! » s'écria la veuve en pleurant. Le scélérat ne m'a rien laissé dont je pusse disposer. En prenant ma pauvre Caroline, il m'a séparé d'elle et ne m'a constitué que 3000 livres de rente dont le fonds appartient à ma fille. Madame a une fille et n'a que du viager, cria Françoise en accourant au salon. Les trois vieilles se regardèrent avec un étonnement profond. Celle d'entre elles, dont le nez et le menton, prêts à se joindre, trahissaient une sorte de supériorité d'hypocrisie et de finesse, cligna des yeux. Et dès que Françoise eut tourné le dos, elle fit à ses deux amis un signe qui voulait dire « Cette fille est une fine mouche, elle a déjà été couchée sur 3 testaments. » Les trois vieilles femmes restèrent donc, mais l'abbé reparut bientôt, et quand il eut dit un mot, les sorcières dégringolèrent de compagnie, les escaliers après lui, laissant Françoise seule avec sa maîtresse. Madame Crochard, dont les souffrances redoublèrent cruellement, eut beau sonner en ce moment sa servante, celle-ci se contentait de crier « Eh, on y va, tout à l'heure !» Les portes des armoires et des commodes allaient et venaient, comme si Françoise eût cherché quelques billets de loterie égarés. À l'instant où cette crise atteignait à son dernier période, mademoiselle de Bellefeuille arriva auprès du lit de sa mère pour lui prodiguer de douces paroles. « Oh, ma pauvre mère, combien je suis criminelle. Tu souffres et je ne le savais pas. Mon cœur ne me le disait pas, mais me voici. Caroline ?
Quoi ?
Elles m'ont amené un prêtre. Mais un médecin, donc, reprit mademoiselle de Bellefeuille. Françoise, un médecin ? Comment ces dames n'ont-elles pas envoyé chercher le docteur ?
Elles m'ont amené un prêtre, reprit la vieille en poussant un soupir.
Comme elle souffre, et pas une potion calmante, rien sur sa table ?
La mère fit un signe indistinct, mais que l'œil pénétrant de Caroline devina, car elle se tut pour la laisser parler.
« Elles m'ont amené un prêtre, soi-disant pour me confesser. »«
Prends garde à toi, Caroline, » lui cria péniblement la vieille comparse par un dernier effort.
« Le prêtre m'a arraché le nom de ton bienfaiteur. »«
Et qui a pu te le dire, ma pauvre mère ?»
La vieille expira, en essayant de prendre un air malicieux. Si mademoiselle de Bellefeuille avait pu observer le visage de sa mère, elle eût vu ce que personne ne verra, rire la mort. Pour comprendre l'intérêt que cache l'introduction de cette scène, il faut en oublier un moment les personnages, pour se prêter au récit d'événements antérieurs, mais dont le dernier se rattache à la mort de madame Crochard. Ces deux parties formeront alors une même histoire qui, par une loi particulière à la vie parisienne, avait produit deux actions distinctes.
Fin de la 32e section.
Section des scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1. Une double famille, par Honoré de Balzac. 33e section. Vers la fin du mois de mars 1806, un jeune avocat, âgé d'environ 26 ans, descendait vers 3 heures du matin le grand escalier de l'hôtel où demeurait l'archi-chancelier de l'Empire. Arrivé dans la cour, en costume de bal, par une fine gelée, il ne put s'empêcher de jeter une douloureuse exclamation ou perçait néanmoins cette gaieté qui abandonne rarement un Français, car il n'aperçut pas de fiacre à travers les grilles de l'hôtel, et n'entendit dans le lointain aucun de ces bruits produits par les sabots ou par la voix enrouée des cochers parisiens. Quelques coups de pied frappés, de temps en temps par les chevaux du grand juge que le jeune homme venait de laisser à la bouillotte de Cambacérès, retentissaient dans la cour de l'hôtel, à peine éclairée par les lanternes de la voiture. Tout à coup, le jeune homme, amicalement frappé sur l'épaule, se retourna, reconnut le grand juge et le salua. Au moment où le laquais dépliait le marchepied du carrosse, l'ancien législateur de la Convention devina l'embarras de l'avocat. « La nuit, tous les chats sont gris, » lui dit-on gaiement. « Le grand juge ne se compromettra pas en mettant un avocat dans son chemin. » « Surtout, ajouta-t-il, si cet avocat est le neveu d'un ancien collègue, l'une des lumières de ce grand conseil d'État qui a donné le code Napoléon à la France. » Le piéton monta dans la voiture sur un geste du chef suprême de la justice impériale. « Où demeurez-vous ? » demanda le ministre à l'avocat avant que la portière ne fût refermée par le valet de pied qui attendait l'ordre. « Quai des Augustins, monseigneur. » Les chevaux partirent, et le jeune homme se vit en tête-à-tête avec un ministre auquel il avait tenté vainement d'adresser la parole avant et après le somptueux dîner de Cambacérès, car le grand juge l'avait visiblement évité pendant toute la soirée. « Eh bien, monsieur de Granville, vous êtes en assez beau chemin ? Mais tant que je serai à côté de votre excellence... »« Je ne plaisante pas, » dit le ministre. « Votre stage est terminé depuis 2 ans, et vos défenses dans le procès Eximeuse et d'Hautesserre vous ont placé bien haut. J'ai cru jusqu'aujourd'hui que mon dévouement à ces malheureux émigrés me nuisait. « Vous êtes bien jeune, » dit le ministre d'un ton grave. « Mais, » reprit-il après une pause, « vous avez beaucoup plu ce soir à l'archichancelier. Entrez dans la magistrature du parquet, nous manquons de sujets. » Le neveu d'un homme à qui Cambacérès et moi nous portons le plus vif intérêt ne doit pas rester avocat faute de protection. Votre oncle nous a aidés à traverser des temps bien orageux, et ces sortes de services ne s'oublient pas. Le ministre se tut pendant un moment.
Avant peu, reprit-il, j'aurai 3 places vacantes au tribunal de première instance et à la cour impériale de Paris. Venez alors me voir, et choisissez celle qui vous conviendra. Jusque-là, travaillez, mais ne vous présentez point à mes audiences. D'abord, je suis accablé de travail. Puis vos concurrents devineraient vos intentions et pourraient vous nuire auprès du patron. Cambacérès et moi, en ne vous disant pas un mot ce soir, nous vous avons garanti des dangers de la faveur. Au moment où le ministre acheva ces derniers mots, la voiture s'arrêtait sur le quai des Augustins. Le jeune avocat remercia son généreux protecteur avec une effusion de cœur assez vive des 2 places qu'il lui avait accordées et se mit à frapper rudement à la porte, car la bise sifflait avec rigueur sur ses mollets. Enfin, un vieux portier tira le cordon, et quand l'avocat passa devant la loge, « Monsieur Granville, il y a une lettre pour vous, » cria-t-il d'une voix enrouée. Le jeune homme prit la lettre et tâcha, malgré le froid, d'en lire l'écriture à la lueur d'un pâle réverbère dont la mèche était sur le point d'expirer. « C'est de mon père, » s'écria-t-il en prenant son bougeoir que le portier finit par allumer. Et il monta rapidement dans son appartement pour y lire la lettre suivante. « Prends le courrier, et si tu peux arriver promptement ici, ta fortune est faite. Mademoiselle Angélique Bontemps a perdu sa sœur. La voilà fille unique, et nous savons qu'elle ne te hait pas. Maintenant, Madame Bontemps peut lui laisser à peu près 40 000 francs de rente, outre ce qu'elle lui donnera en dot. J'ai préparé les voies. Nos amis s'étonneront de voir d'anciens nobles s'allier à la famille Bontemps. Le père Bontemps a été un bonnet rouge foncé, qui possédait force biens nationaux achetés à vil prix, mais d'abord il n'a eu que des prêts de moines qui ne reviendront jamais. Puis, si tu as déjà dérogé en te faisant avocat, je ne vois pas pourquoi nous reculerions devant une autre concession aux idées actuelles. La petite aura 300 000 francs. Je t'en donne 100. Le bien de ta mère doit valoir 50 000 écus, ou à peu près. Je te vois donc en position, mon cher fils, si tu veux te jeter dans la magistrature, de devenir sénateur tout comme un autre. Mon beau-frère, le conseiller d'État, ne te donnera pas un coup de main pour cela, par exemple. Mais, comme il n'est pas marié, sa succession te reviendra un jour. Si tu n'étais pas sénateur de ton chef, tu aurais donc sa survivance. De là, tu seras juché assez haut pour voir venir les événements. Adieu, je t'embrasse. F. Comte de Granville. Le jeune de Granville se coucha donc en faisant 1000 projets plus beaux les uns que les autres. Puissamment protégé par l'archichancelier, par le grand juge et par son oncle maternel, l'un des rédacteurs du Code, il allait débuter dans un poste envié, devant la première cour de l'Empire, et se voyait membre de ce parquet où Napoléon choisissait les hauts fonctionnaires de son empire. Il se présentait de plus une fortune assez brillante pour l'aider à soutenir son rang, auquel n'aurait pas suffi le chétif revenu de 5 000 francs que lui donnait une terre recueillie par lui dans la succession de sa mère. Pour compléter ses rêves d'ambition par le bonheur, il évoqua la figure naïve de Mademoiselle Angélique Bontemps, la compagne des jeux de son enfance. Tant qu'il n'eut pas l'âge de raison, son père et sa mère ne s'opposèrent point à son intimité avec la jolie fille de leur voisin de campagne. Mais quand, pendant les courtes apparitions que les vacances lui laissaient faire à Bayeux, ses parents, entichés de noblesse, s'aperçurent de son amitié pour la jeune fille, ils lui défendirent de penser à elle. Depuis 10 ans, Granville n'avait donc pu voir que par moments celle qu'il nommait sa petite femme. Dans ces moments, dérobés à l'active surveillance de leur famille, à peine échangèrent-ils de vagues paroles, en passant l'un devant l'autre dans l'église ou dans la rue. Leurs plus beaux jours furent ceux où, réunis par l'une de ces fêtes champêtres nommées en Normandie des assemblées, ils s'examinèrent furtivement et en perspective. Pendant ces dernières vacances, Granville vit 2 fois Angélique, et le regard baissé, l'attitude triste de sa petite femme, lui firent juger qu'elle était courbée sous quelque despotisme inconnu. Arrivé dès 7 heures du matin au bureau des messageries de la rue Notre-Dame des Victoires, le jeune avocat trouva heureusement une place dans la voiture qui partait à 7 heures pour la ville de Caen. L'avocat stagiaire ne revit pas sans une émotion profonde les clochers de la cathédrale de Bayeux. aucune espérance de sa vie n'ayant encore été trompée, son cœur s'ouvrait aux beaux sentiments qui agitent de jeunes âmes. Après le trop long banquet d'allégresse pour lequel il était attendu par son père et par quelques amis, l'impatient jeune homme fut conduit vers une certaine maison située rue Teinture, et bien connue de lui. Le cœur lui battit avec force quand son père, que l'on continuait d'appeler à Bayeux le comte de Granville, frappa rudement à une porte cochère dont la peinture verte tombait par écailles. Il était environ 4 heures du soir. Une jeune servante, coiffée d'un bonnet de coton, salua les deux messieurs par une courte révérence et répondit que ces dames allaient bientôt revenir de vêpres. Le comte et son fils entrèrent dans une salle basse, servant de salon et semblable au parloir d'un couvent. Des lambris en noyer poli assombrissaient cette pièce autour de laquelle quelques chaises en tapisserie et d'antiques fauteuils étaient symétriquement rangés. La cheminée en pierre n'avait pour tout ornement qu'une glace verdâtre, de chaque côté de laquelle sortaient les branches contournées de ces anciens candélabres fabriqués à l'époque de la paix d'Utrecht. Sur la boiserie, en face de cette cheminée, le jeune Granville aperçut un énorme crucifix d'ébène et d'ivoire, entouré de buis bénis. Quoique éclairé par 3 croisées qui tiraient leur jour d'un jardin de province, dont les carrés symétriques étaient dessinés par de longues raies de buis, la pièce en recevait si peu de jour qu'à peine voyait-on sur la muraille, parallèle à ses croisées, 3 tableaux d'église dus à quelque savant pinceau et achetés sans doute pendant la Révolution par le vieux Bontemps, qui, en sa qualité de chef du district, n'oublia jamais ses intérêts. Depuis le plancher, soigneusement ciré, jusqu'aux rideaux de toile, à carreaux verts, tout brillait d'une propreté monastique. Involontairement, le cœur du jeune homme se serra dans cette silencieuse retraite où vivait Angélique. La continuelle habitation des brillants salons de Paris et le tourbillon des fêtes avaient facilement effacé les existences sombres et paisibles de la province dans le souvenir de Granville. Aussi, le contraste fut-il pour lui si subit qu'il éprouva une sorte de frémissement intérieur. Sortir d'une assemblée chez Cambacérès, où la vie se montrait si ample, où les esprits avaient de l'étendue, où la gloire impériale se reflétait vivement, et tomber tout à coup dans un cercle d'idées mesquines, n'était-ce pas être transporté de l'Italie au Groenland ? « Vivre ici, ce n'est pas vivre, » dit-il en examinant ce salon de méthodiste. Le vieux comte, qui s'aperçut de l'étonnement de son fils, alla le prendre par la main, l'entraîna devant une croisée d'où venait encore un peu de jour, et pendant que la servante allumait les vieilles bougies des flambeaux, il essaya de dissiper les nuages que cet aspect amassait sur son front. « Écoute, mon enfant, lui dit-il, la veuve du père Bontemps est furieusement dévote. Quand le diable devint vieux, tu sais, je vois que l'air du bureau te fait faire la grimace. Eh bien, voici la vérité. La vieille femme est assiégée par les prêtres. Ils lui ont persuadé qu'il était toujours temps de gagner le ciel, et pour être plus sûre d'avoir Saint-Pierre et ses clés, elle les achète. Elle va à la messe tous les jours, entend tous les offices, communie tous les dimanches, que Dieu fait, et s'amuse à restaurer les chapelles. Elle a donné à la cathédrale tant d'ornements, d'aubes, de chapes, elle a chamarré le dé de tant de plumes, qu'à la procession de la dernière fête Dieu, il y avait une foule comme à une pendaison pour voir les prêtres magnifiquement habillés et leurs ustensiles dorés à neuf. Aussi, cette maison est-elle une vraie terre sainte. C'est moi qui ai empêché la vieille folle de donner ces 3 tableaux à l'église. Un dominicain, un Corrège et un André del Sarto qui valent beaucoup d'argent. « Mais Angélique, » demanda vivement le jeune homme, « si tu ne l'épouses pas, Angélique est perdue, » dit le comte. Nos bons apôtres lui ont conseillé de vivre vierge et martyr. J'ai eu toutes les peines du monde à réveiller son petit cœur en lui parlant de toi quand je l'ai vue fille unique. Mais tu comprends aisément qu'une fois mariée, tu l'emmèneras à Paris. Là, les fêtes, le mariage, la comédie et l'entraînement de la vie parisienne lui feront facilement oublier les confessionnaux, les jeûnes, les cilices et les messes dont se nourrissent exclusivement ces créatures. Mais les 50 000 livres de rente provenues des biens ecclésiastiques ne retourneront-elles pas à... Nous y voilà, s'écria le comte d'un air fin. en considération du mariage, car la vanité de Madame Bontemps n'a pas été peu chatouillée par l'idée d'enter les Bontemps sur l'arbre généalogique des Granville. La susdite mère donne sa fortune en toute propriété à la petite, en ne s'en réservant que l'usufruit. Aussi, le sacerdoce s'oppose-t-il à ton mariage. Mais j'ai fait publier les bans, tout est prêt, et en 8 jours tu seras hors des griffes de la mère ou de ses abbés. Tu posséderas la plus jolie fille de Bayeux, une petite commère qui ne te donnera pas de chagrin parce que ça aura des principes. Elle a été mortifiée, comme ils disent dans leur jargon, par les jeûnes, par les prières, et, ajouta-t-il à voix basse, par sa mère. Un coup frappé discrètement à la porte imposa silence au comte, qui crut voir entrer les deux dames. Un petit domestique à l'air affairé se montra, mais, intimidé par l'aspect des deux personnages, il fit un signe à la bonne qui vint près de lui. Vêtue d'un gilet de drap bleu à petite basque qui flottait sur ses hanches et d'un pantalon rayé bleu et blanc, ce garçon avait les cheveux coupés en rond. Sa figure ressemblait à celle d'un enfant de cœur, tant elle peignait cette componction forcée que contractent tous les habitants d'une maison dévote. « Mademoiselle Gatienne, savez-vous où sont les livres pour l'office de la Vierge ? Les dames de la congrégation du Sacré-Cœur font ce soir une procession dans l'église. » Gatienne alla chercher les livres. « Y en a-t-il encore pour longtemps, mon petit milicien ?» demanda le comte. « Oh, pour une demi-heure au plus. »« Allons voir ça. Il y a de jolies femmes, » dit le père à son fils. « D'ailleurs, une visite à la cathédrale ne peut pas nous nuire. » Le jeune avocat suivit son père d'un air irrésolu. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda le comte. « J'ai, mon père, j'ai raison. »« Tu n'as encore rien dit ?» « Oui, mais j'ai pensé que vous avez conservé 10 000 livres de rente de votre ancienne fortune. Vous me les laisserez le plus tard possible, je le désire. Mais si vous me donnez 100 000 francs pour faire un sot mariage, vous me permettrez de ne vous en demander que 50 000 pour éviter un malheur et jouir, tout en restant garçon, d'une fortune égale à celle que pourrait m'apporter votre demoiselle Bontemps. Es-tu fou ? Non, mon père, voici le fait. Le grand juge m'a promis avant-hier une place au parquet de Paris. 50 000 francs, joints à ce que je possède et aux appointements de ma place, me feront un revenu de 12 000 francs. J'aurai certes alors des chances de fortune 1000 fois préférables à celles d'une alliance aussi pauvre de bonheur qu'elle est riche en bien. « On voit bien, répondit le père en souriant, que tu n'as pas vécu dans l'ancien régime. Est-ce que nous sommes jamais embarrassés d'une femme, nous autres ? Mais, mon père, aujourd'hui le mariage est devenu... Ah, ça, dit le comte, en interrompant son fils. Tout ce que mes vieux camarades d'émigration me chantent est donc bien vrai ? La Révolution nous a donc légué des mœurs sans gaieté ? Elle a donc empesté les jeunes gens de principes équivoques ? Tout comme mon beau-frère le Jacobin, tu vas me parler de nation, de morale publique, de désintéressement ? Oh, mon Dieu ! Sans les sœurs de l'empereur, que deviendrions-nous ? Ce vieillard encore vert, que les paysans de ses terres appelaient toujours le seigneur de Granville, acheva ses paroles en entrant sous les voûtes de la cathédrale. Nonobstant la sainteté des lieux, il fredonna tout en prenant de l'eau bénite, un air de l'opéra de Rose et Cola, et guida son fils le long des galeries latérales de la nef, en s'arrêtant à chaque pilier pour examiner dans l'église les rangées de têtes qui s'y trouvaient alignées, comme le sont des soldats à la parade. L'office particulier du Sacré-Cœur allait commencer. Les dames, affiliées à cette congrégation, étaient placées près du chœur. Le comte et son fils se dirigèrent vers cette portion de la nef et s'adossèrent à l'un des piliers les plus obscurs, d'où ils purent apercevoir la masse entière de ces têtes qui ressemblait à une prairie émaillée de fleurs. Tout à coup, à 2 pas du jeune Granville, une voix plus douce qu'il ne semblait possible à créature humaine de la posséder, détonna comme le premier rossignol qui chante après l'hiver. Quoique accompagnée de 1000 voix de femmes et par les sons de l'orgue, cette voix remua ses nerfs comme s'ils eussent été attaqués par les notes trop riches et trop vives de l'harmonica. Le Parisien se retourna, vit une jeune personne dont la figure était, par suite de l'inclination de sa tête, entièrement ensevelie sous un large chapeau d'étoffe blanche, et pensa que d'elle seule venait cette claire mélodie. Il crut reconnaître Angélique, malgré la pelisse de mérinos brun qui l'enveloppait, et poussa le bras de son père. « Oui, c'est elle, » dit le comte après avoir regardé dans la direction que lui indiquait son fils. Le vieux seigneur montra par un geste le visage pâle d'une vieille femme dont les yeux fortement bordés d'un cercle noir avaient déjà vu les étrangers sans que son regard faux eût paru quitter le livre de prière qu'elle tenait. Angélique leva la tête vers l'autel, comme pour aspirer les parfums pénétrants de l'encens dont les nuages arrivaient jusqu'aux deux femmes. À la lueur mystérieuse répandue dans ce sombre vaisseau par les cierges, la lampe de la nef et quelques bougies allumées aux piliers, le jeune homme aperçut alors une figure qui ébranla ses résolutions. Un chapeau de moire blanche encadrait exactement un visage d'une admirable régularité, par l'ovale que décrivait le ruban de satin noué sous un petit menton en fossette. Sur un front étroit, mais très mignon, des cheveux couleur d'or pâle se séparaient en deux bandeaux et retombaient autour des joues comme l'ombre d'un feuillage sur une touffe de fleurs. Les deux arcs des sourcils étaient dessinés avec cette correction que l'on admire dans les belles figures chinoises. Le nez, presque aquilin, possédait une fermeté rare dans ses contours, et les deux lèvres ressemblaient à deux lignes roses tracées avec amour par un pinceau délicat. Les yeux, d'un bleu pâle, exprimaient la candeur. Si Granville remarqua dans ce visage une sorte de rigidité silencieuse, il put l'attribuer au sentiment de dévotion qui animait alors Angélique. Les saintes paroles de la prière passaient entre deux rangées de perles d'où le froid permettait de voir sortir comme un nuage de parfum. Involontairement, le jeune homme essaya de se pencher pour respirer cette haleine divine. Ce mouvement attira l'attention de la jeune fille et son regard fixe, élevé vers l'autel, se tourna sur Granville, que l'obscurité ne lui laissa voir qu'indistinctement, mais en qui elle reconnut le compagnon de son enfance. Un souvenir plus puissant que la prière vint donner un éclat surnaturel à son visage. Elle rougit. L'avocat tressaillit de joie en voyant les espérances de l'autre vie vaincues par les espérances de l'amour, et la gloire du sanctuaire éclipsée par des souvenirs terrestres. Mais son triomphe dura peu. Angélique abaissa son voile, prit une contenance calme et se remit à chanter sans que le timbre de sa voix accusât la plus légère émotion. Granville se trouva sous la tyrannie d'un seul désir et toutes ses idées de prudence s'évanouirent. Quand l'office fut terminé, son impatience était déjà devenue si grande que, sans laisser les deux dames retourner seules chez elles, il vint aussitôt saluer sa petite femme. Une reconnaissance timide de part et d'autre se fit sous le porche de la cathédrale, en présence des fidèles. Madame Bontemps trembla d'orgueil en prenant le bras du comte de Granville qui, forcé de le lui offrir devant tant de monde, sut fort mauvais gré à son fils d'une impatience si peu décente. Fin de la 33e section.
A new year, time for new growth. Grow your education and skills with Herzing University. Our online behavioral health programs fit your schedule and time. From an 8-month diploma program in health and human services to a 36-month bachelor's in psychology. Grow your behavioral health career with us wherever you are in your education. Your future starts now at Herzing University. Visit us online at herzing.edu or text health to 85109. Online at herzing.edu or text health to 85109.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.